épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. On lira les six premiers versets, mais c'est le verset 3 qui va surtout nous intéresser. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous serions par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose convenant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le verset 3, je le lis dans la version Semeur. Notre lettre, c'est vous-même. Une lettre écrite dans notre cœur, que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère, qui nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. Paul écrit aux Corinthiens. Il semble qu'à cette époque, certaines personnes se recommandaient, arrivaient avec des lettres de recommandation. Et Paul un petit peu met ça de côté en disant, notre recommandation, nos lettres de recommandation, c'est vous. C'est vous parce que vous êtes convertis par la prédication de l'Évangile, par le message que nous allons annoncer, et vous êtes nos lettres de recommandation. On trouve plusieurs fois cette manière de parler dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Un peu avant, il a dit « Vous êtes le parfum de Christ ». Ici, vous êtes une lettre. Un petit peu après, il dira « Nous faisons fonction d'ambassadeur ». Il dira aussi « Nous portons ce trésor dans des vases de terre », comme pour rappeler aux Corinthiens ce qu'ils sont, leur identité, leur vocation. On va réfléchir simplement sur cette parole « Nous sommes une lettre de Christ ». Et je voudrais faire ressortir trois choses au travers de cette déclaration. La première chose que je voudrais dire, c'est que Dieu veut et Dieu parle au travers de nos vies. Tout à l'heure, ça a été cité, nous avons un Dieu qui parle de différentes manières. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien sûr, il y a des moyens premiers, privilégiés, supérieurs, la parole. Dieu a parlé par le Fils. Mais notre Dieu, aujourd'hui, veut parler par son peuple, veut parler par chacun d'entre nous. Et Dieu va parler autour de nous par ce que nous sommes, par ce que nous faisons. Dieu parlera par notre manière d'être, par notre manière de nous comporter, par notre manière de réagir, par notre caractère, notre tempérament. Et on ne peut pas dire « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Dieu veut parler au travers de nous et la question que l'on doit se poser c'est « est-ce que Dieu parle au travers de moi ? Quel message Dieu fait passer au travers de moi ?» Je lisais cette semaine les épîtres de Paul à Timothée et à Tite et à plusieurs reprises, il est écrit, dit que les vieillards, dit qu'un tel doivent être, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, afin que la doctrine ne soit pas blasphémée. Vous voyez, il y a ce lien qui est fait entre ma manière d'être, ma manière de me comporter, et ce que les autres vont penser alors, de ce que je dis, de ce que j'enseigne, de ce que je prétends être. Nous sommes, nous le savons ça, on en est conscient, mais c'est bien de se le rappeler. Je suis une lettre, quel message je fais passer? Quand j'étais jeune pasteur avec le pasteur responsable, nous avons été appelés pour faire une visite. Et je me souviendrai toujours de cette visite. Une dame d'environ 35-40 ans nous attendait à Vaux-en-Velin dans son appartement. Quand nous sommes arrivés, elle nous a fait asseoir ensemble d'elle. Il y avait deux livres sur la table. Une Bible et ce livre bien connu, Ce que la Bible enseigne de Thoret. Elle avait ça. Et puis donc on ne l'avait jamais vu, on l'avait peut-être vu venir une fois à l'église, mais on ne l'avait pas encore photographié. Et elle nous a dit ceci, elle a commencé. J'ai vu ce couple, il est venu dans votre église, je sais ce qu'il est avant, je les ai vus changer, expliquez-moi, je veux savoir. Et voilà, et c'était là, expliquez-moi. Et donc on lui a expliqué ce que ce couple avait vécu, cette femme s'est convertie. Elle a donné son cœur à Jésus-Christ, uniquement parce qu'elle a vu un couple vivre un véritable changement et manifester dans leur manière de vivre ce changement. Ils ont été une lettre pour elle. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de travailler à la poste, de faire facteur, et j'avais eu moi ce job d'été parce qu'il y avait deux chrétiens qui travaillaient à la poste. Et je me rappelle un jour, je parlais avec une factrice et je lui disais, je suis chrétien, je vais dans cette église comme ce facteur-là et ce facteur-là. Alors elle me regarde et elle me dit, eh ben je confirme, hein, les gens de cette église, ils sont bien. J'étais fier. Mais les deux frères avaient fait passer un bon message. C'était des belles lettres. Il y a beaucoup de textes qui rejoignent cette pensée. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de parler. Vous êtes la lumière du monde. Ah, il est question de nos œuvres, car nos œuvres, nous devons glorifier Dieu par ce que nous sommes, par ce que nous faisons. Dans la Bible, nous voyons des gens qui ont été des lettres. Je pense à cette parole de l'apôtre Paul à Timothée, quand il lui dit « Je garde le souvenir de ta foi sincère, mais aussi de celle qui habitait ta mère, Eunice, et ta grand-mère Louise, ou c'est peut-être dans le sens inverse, mais enfin ta mère et ta grand-mère. » Et il y a ce souvenir-là que cette maman et cette grand-mère ont parlé par leur manière d'être à ce jeune Timothée, coincé entre la foi et de l'autre côté un père grec qui manifestement n'a pas suivi le chemin de la foi. Et parce qu'il y a eu un bon modèle, parce qu'il y a eu un bon message, à un moment donné, il a fait le bon choix. Et je crois que c'est bien de se le rappeler. Cette pensée, elle est toute simple. Mais je veux faire passer un bon message. Je veux proclamer l'Évangile. Attention, nous ne parlons pas seulement par notre manière d'être. Nous devons dire aussi que Christ est vivant, qu'il est celui qui pardonne les péchés, qu'il est celui qui change les vies. Mais ce message-là que je veux dire, je veux qu'il puisse être lu. Je veux que lorsque les personnes regardent ma vie, elles puissent dire pour lui ce qui compte. C'est ce que la Bible dit. Alors, on veut que par notre manière de vivre, les gens puissent dire, lui, il est différent. Lui, il a la conviction d'être sauvé. Voilà le message qu'on veut faire passer, même si on ne va pas toujours tout faire passer, mais que ça puisse, après lorsqu'on commence à parler, que ça puisse parler, que ça puisse couler comme de l'eau de roche. Nous avons un message à faire passer par ce que nous proclamons, ce que nous disons et par ce que nous sommes. On veut dire que Christ est vivant. On veut dire que Christ est le sauveur du monde. On veut dire qu'il a changé nos vies. On veut dire qu'on n'aime pas le péché et qu'on veut s'en éloigner, même si on n'est pas parfait. On veut dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la norme pour nous. Les normes peuvent changer, mais pour nous, Christ est la parole de Dieu. C'est la norme. Ce message-là, on veut le faire passer par notre manière de vivre. La deuxième chose que je dirais, et qui s'enchaîne derrière, c'est que je suis forcément responsable de la lettre que je suis, du message que je fais passer. Il est évident que la lettre, elle peut plus ou moins bien passer. Je vais faire un petit jeu de mots, mais comme une lettre à la poste, ou pas. Mais le message que nous faisons passer, des fois, il ne sera pas toujours bien reçu. Alors il ne sera pas toujours bien reçu, non pas parce que le message n'a pas été bon, mais parce que certains n'ont pas envie de le recevoir. Et ça, c'est bien de se le rappeler. Je citais ce texte récemment. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Jésus nous dit, vraiment, Jean-Baptiste est venu avec son message. Certains ne l'ont pas entendu. Jésus est venu d'une manière différente. On ne l'a pas plus écouté. Hein, Jésus dit quelque part que quand bien même vous seriez le bon message, vous seriez une bonne lettre, certains ne le recevront pas. C'est bien de se le rappeler. Parce que combien de chrétiens on trouve des fois en train de se culpabiliser, de se tordre la conscience parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont un mauvais témoignage. Et je crois qu'il faut... Non, il y a... Des fois, ce n'est pas qu'on a été un mauvais témoignage, c'est que certains ne le reçoivent pas, ne veulent pas le recevoir ou ne l'ont pas encore reçu et enregistré. Je pense particulièrement des fois à des parents qui se culpabilisent parce qu'à un moment donné, ils ont imposé à leurs enfants de venir au culte. Et ben, je vais me dire à ces parents, non, ça, ce n'est pas une erreur. Vous avez communiqué un message à vos enfants. Vous avez dit à vos enfants, l'évangile, c'est important. Par contre, celui qui n'impose pas, hein, qui n'est pas, comment dire, qui ne met pas la pression sur ses enfants, de cette manière-là, fais pas ça, notre message, il dit, tu fais comme tu veux, hein. C'est pas très important. Hein. Je tiens à le dire, mais on est responsable du message que l'on fait passer, mais on n'est pas responsable des décisions que les gens prennent. Et ça, on a une obligation de moyens et non de résultats. Mais la lettre, elle peut aussi mal passer parce qu'elle comporte quelques ratures, quelques anomalies. Elle peut sonner faux. Il y a quelques années, 7 personnes se sont évadées d'une prison haute sécurité aux États-Unis. Et ils se sont réfugiés à la campagne. Et ils ont dit aux voisins, nous sommes des chrétiens, nous venons pour une retraite spirituelle. Sauf que le voisin, il a vu ces gens vivre. Il a vu comment il vivait. Il dit, là, il y a une anomalie. Et ça a éveillé le soupçon. Il s'est renseigné. Et c'est comme ça qu'ils ont été retrouvés. Eh oui, ils ont choisi la mauvaise lettre, le mauvais support. Tout à l'heure, j'ai cité des bons exemples. Mais reconnaissons-le qu'on pourrait citer aussi des mauvais exemples. Des chrétiens qui ne sont pas dignes de ce nom, qui ne sont pas des bonnes lettres, qui n'ont pas eu le bon comportement, des gens chrétiens qui disent « oui, il faut être vrai », mais qui n'ont pas peur de tricher dès que ça les arrange, des chrétiens qui disent « il faut être honnête », mais dès qu'on peut mentir pour nous sortir d'affaires, on le fait. Malheureusement, ça existe. Hein. Et il semble que chez les Corinthiens, il y avait ce genre de problème. Notre Dieu nous a donné son nom. Notre Dieu nous a donné sa parole. Notre Dieu nous a donné sa grâce. Il nous a donné sa présence. Et nous, on va être conscients du privilège que nous avons. Nous sommes porteurs d'un grand message. Il y avait dans l'armée d'Alexandre le Grand, le conquérant macédonien, un fort mauvais soldat. Des mauvais soldats, il y en avait. Mais celui-là, il avait un problème. Il s'appelait aussi Alexandre. Et Alexandre le Grand, un jour, en eut marre d'entendre parler du mauvais soldat Alexandre. Alors il l'a fait venir, il l'a convoqué. Et il lui a dit de deux choses l'une. Soit tu changes de nom, soit tu changes de comportement. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés des petits chrétiens. Vous le savez, le mot chrétien, c'est une brimade au départ. C'est une moquerie. Mais nous, on est fiers de porter ce nom-là. Et on sait que Jésus, son évangile, va être jugé par l'attitude que nous aurons. Nous sommes la première Bible lue pour beaucoup de personnes. Et certains n'iront jamais lire celle-ci, parce que la première qu'ils ont lue a la dérature et des anomalies, et ça on ne veut pas. On veut communiquer la grâce de Dieu. Même si ce n'est pas parfait notre témoignage, on veut que ça respire l'authenticité. On veut que ça respire la grâce. On veut assumer nos erreurs. Hein, je le dis souvent, des erreurs et des boulettes, on en fait. Mais qu'on puisse les assumer. Chercher à les réparer. Dans Luc chapitre 15, c'est un passage où il y a beaucoup de choses perdues. Il y a au départ une brebis perdue. Et il y a aussi une drachme perdue. Et il y a un fils perdu. Nous connaissons ces paraboles. Ce qui est intéressant, j'aime souvent le souligner, c'est pourquoi elles sont perdues. Le fils, il s'est perdu pourquoi ? Par mauvais choix, par décision, par orgueil. C'est sa propre responsabilité. La brebis, elle s'est perdue pourquoi ? Par négligence, par sa propre négligence. Elle n'a pas suivi, elle s'est intéressée de bout, elle n'a pas fait attention et elle s'est perdue. Mais la drachme, elle s'est perdue à cause de quoi ? Elle s'est perdue par la négligence de quelqu'un d'autre. Et je dirais, finalement, les gens sont perdus un petit peu pour ces trois raisons. À cause de mauvais choix, à cause de leur propre négligence et à cause de la négligence des autres. Mais je me dis, si le côté négligence des autres est trop important, comment certains vont un jour pouvoir entendre l'évangile ? Quand vous avez, par exemple, un enfant qui a grandi dans l'église et qui a vu, je sais pas, un tel papa ou maman lever les bras au ciel, faire de grandes et belles louanges, mais à la maison, c'est autre chose. Un jour, ça fait une contre-lettre. Ça fait un contre-témoignage. Alors je dis bien, les enfants nous connaissent. Et ils savent très bien que les parents ne sont pas parfaits. Mais c'est pour ça que je parle de cohérence, d'authenticité, de sincérité dans notre manière d'être. Quel message faisons-nous passer ? Nous ne voulons pas être un message qui sonne faux, un contradictoire. Un message qui dit « oui, il faut être dans la joie », mais on voit un chrétien qui est amer et qui en veut à tout le monde. Que Dieu nous garde de cela. On ne veut pas être un SMS bourré de fautes d'orthographe. À chaque mot où c'est presque illisible, on a beaucoup de mal à lire, moi il me faut du temps pour en décoder certains, mais on veut même pas être un, on n'est pas une lettre écrite sur quelques mots, un petit mot d'emballage là ou d'eau d'un prospectus. Mais on a une lettre de qualité. Ça a été écrit sur quelque chose de qualité. Hein, je crois que c'est important de se le rappeler. Mais vous savez, aujourd'hui, pour écrire une lettre, selon vous écrivez, aujourd'hui, heureusement qu'on a des modèles. Hein, parce que c'est compliqué des fois. Mais on est une lettre de qualité. On n'est pas un SMS bourré de fautes d'orthographe. On ne veut pas être aussi un message sans saveur. Excusez-moi, mais une carte de condoléances, vous voyez, de remerciements pour... Mais on a une carte, une lettre d'invitation à venir à celui qui a changé nos vies. Je me rappelle ces chrétiens qui avaient le souci de leur témoignage. Ils étaient même des fois presque bloqués par certaines choses. Mais en même temps, ils avaient une vie, une manière d'être, ils ne donnaient pas envie de connaître Jésus. Ils avaient peur de tout. Tout ce qui était nouveau, c'était diabolique. Enfin, c'était excessif. Alors, des fois, il y a des choses nouvelles, il faut faire attention. Mais eux, ils étaient dans cet excès. Mais ils ne vous donnaient pas envie. Je me disais, à leur contact, eh ben moi, j'aurais pas envie de connaître Jésus. Pourtant, ils avaient le souci du témoignage. Vous voyez, c'est... Non, je crois qu'on n'est pas une carte de remerciement pour obsèques, là. Mais on a un faire-part. Un faire-part pour annoncer la vie. Hein, on est une lettre vivante, écrite par le Dieu vivant. Hein, et je crois que c'est quelque chose qui est là pour nous important. On n'est pas non plus une photocopie. On est une lettre unique. On a tous fait, c'est vrai, la même expérience pour ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Nous avons expérimenté, j'y reviendrai. Mais la nouvelle naissance, la grâce est passée dans notre cœur. Il s'est passé quelque chose de beau, de magnifique. Mais en même temps, cette expérience, elle a chacun ses particularités. On a chacun notre histoire. On est nous-mêmes. On est Jésus à respecter notre personnalité. On garde, enfin, on reste un peu nous-mêmes. Et je crois que c'est bien de se rappeler que je suis une lettre. On a expérimenté la même grâce, mais on est différent. Il y a quelques années, enfin il n'y a pas longtemps, à Vienne, on a habité dans un coin où il y avait 3-4 témoins de Jéhovah par aller. Ils s'étaient placés. Mais j'avais l'impression de voir des photocopies. Alors je parle sans mépris, hein. Mais j'ai l'impression de voir des clones comme s'ils avaient, il n'y avait pas de liberté. Vous voyez, ça ressortait ça. Et ça, ça m'a interpellé de les observer de cette manière-là. Je crois que Nous, on est avec nos différences. On est avec notre parcours. Par contre, il y a vraiment une même grâce qui est passée. Il y a le même esprit qui est à l'œuvre dans notre cœur pour nous transformer. Il y a les mêmes aspirations. Il y a la même puissance de vie qui est à l'œuvre. Mais on est différents. Et c'est bien de se le rappeler, de s'en souvenir. On est une lettre unique. Parce que c'est un Dieu unique et il a pris son temps pour chacun d'entre nous pour écrire quelque chose à l'intérieur. On n'est pas une carte postale avec rien dedans. Cet été-là, j'étais à la colonie et à un moment donné, j'ai intercepté une carte postale qui partait là. Et puis je l'ai lu, j'ai cru reconnaître les cartes postales que j'envoyais quelques années plus tôt quand j'étais enfant. Carte postale disait à peu près ceci, c'est celle que j'écrivais. « Chère maman, cher papa, je m'amuse bien, il fait beau ici, envoyez-moi un colis, je vous fais de gros bisous. » C'était à peu près ça, mais c'était à peu près ça. Et la carte postale, c'était « ça change pas ». Alors je suppose que pour les parents, de toute façon, ils n'en attendaient pas plus, et ça leur fait du bien. Mais je me dis, c'est pas avec une carte postale qu'on va découvrir ce que font nos enfants à la colonie. Et je crois que nous, on est des lettres avec du contenu. C'est la pensée que je veux souligner. Et qu'on n'est pas avec des slogans. Il fait beau, c'est beau, mais quand on nous demande raison de l'espérance qu'il y a en nous, quand quelqu'un vient nous titiller sur une question et Jésus c'est Dieu, ou quand Jésus, on vient nous poser toutes sortes de questions, et ben on a du répondant, on a du contenu. Quand on vient nous poser une question sur le plan éthique, sur le plan social, eh bien on va se répondre, on va essayer de répondre avec quelque chose. On va montrer qu'on a réfléchi sur le problème et qu'on est des gens qui réfléchissent. Et je crois que ça c'est un point aussi qui est important. Et puis on n'est pas une lettre anonyme. Hein. L'auteur doit être visible. À Washington, il y a une extraordinaire copie de la Constitution des États-Unis. Si on l'examine de près, elle apparaît simplement comme un chaos de lignes irrégulières et bizarrement entremêlées. Mais quand le visiteur se recule et regarde avec l'éloignement et la perspective convenable, il a la stupeur de voir apparaître le visage de George Washington, l'inspirateur de la Constitution américaine. Les lignes sont si ingénieusement tracées et si habilement espacées qu'elles reproduisent exactement la physionomie du grand américain. Le texte lui-même constitue les lignes du portrait. C'est ce qui doit ressortir lorsque nous lisons la Bible. À un moment donné, il ressort Jésus. Mais c'est ce qui doit aussi ressortir lorsque les gens regardent notre vie. À un moment donné, il doit ressortir Jésus. Je me rappelle un jour, quelqu'un m'a dit « Toi, t'es un Jésus ». Elle m'a dit ça avec mépris. Mais je suis fier, moi, d'être appelé comme ça. De notre manière de vivre, il doit apparaître Jésus. Même si, je le dis bien, on prend ça avec humilité, on sait très bien que on sera toujours que des petits Christ. Dans Acte 4, verset 13, il est écrit ceci, alors qu'il est... Il y avait Pierre, il y avait Jean, ils étaient arrêtés, on les malmenait. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Cette fin de verset, elle est admirable. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. C'est-à-dire qu'en les regardant, ils découvraient, ils voyaient qu'il y avait la marque de Jésus. Et que lorsqu'on est regardé, considéré, on puisse voir aussi la marque de Jésus. Et puis la troisième pensée que je voudrais partager, c'est que je suis détenteur du message de la grâce. Juste après, Paul dit que Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Cette notion de nouvelle alliance et tout ce qui suit fait écho à la prophétie de Jérémie. Jérémie 31, verset 31 à 31, 4, où il est écrit ceci, « Voici des jours viennent, dit l'Éternel, où j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, une nouvelle alliance. Non selon l'alliance que je fis avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit l'Éternel. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Après, il dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Je le disais il y a quelque temps, dans l'ancienne alliance, la loi, elle était écrite à l'extérieur de l'homme. Et l'homme savait ce qu'il devait faire, mais il n'en avait pas le désir, et encore moins la capacité. Dans la nouvelle alliance, Dieu a écrit à l'intérieur de nos cœurs. Et il a écrit dans notre conscience. Et il a mis en nous le désir de faire ce qu'il veut, ce que Dieu veut, ce qui est bien. Et il nous a donné aussi les ressources pour le faire, même si des fois ça bataille, et même si des fois ça coince. Mais on a en nous cette loi. Dieu l'a écrit dans notre cœur. Et puis il a écrit dans notre cœur qu'il ne se souvient plus de nos péchés, que nos iniquités ont été effacées. Voilà le message qu'on détient. Voilà ce message qu'on veut faire passer. Celui qu'on veut que les gens puissent lire au travers de nous. Quelque chose, on a quelque chose d'unique. Vous savez, la grâce et cette conviction que nos péchés sont effacés, il n'y a que nous qui l'avons. Il n'y a que nous qui avons expérimenté cela. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. Vous pouvez gratter dans toutes les religions. Il n'y en a aucun qui a l'assurance d'être sauvé. Mais quand on a découvert la grâce, Dieu a écrit dans notre cœur, on a cette conviction-là. Et on a ce potentiel. Et c'est ce message-là qu'on veut faire passer. Je termine simplement en disant ceci. Posons-nous la question. Régulièrement, quel message je fais passer ? Réfléchissons dessus. Est-ce que Jésus est lisible et visible dans ma manière de vivre, dans ma manière de réagir, dans mon caractère, dans mon tempérament? Nous sommes une lettre de Jésus-Christ. On a un objectif, communiquer Jésus. C'est une responsabilité. Et puis, ça nous parle aussi d'une expérience que nous avons faite, que le Seigneur nous aide à être ces bonnes lettres et des lettres de Jésus-Christ. On prie le Seigneur.